Philippe Clohagen, c'est toujours un bonheur de vous retrouver d'année en année, parce que grâce au guide du routard, d'année en année, on part en voyage avec vous, même si ce sont des voyages virtuels, et dans ces guides du routard. Alors, il y en a trois qui font la nouveauté cette année, le Sri Lanka, nos meilleurs campings en France, et celui par lequel j'aimerais qu'on débute cet entretien, Israël-Palestine. Alors, première question, j'ai eu le sentiment, en lisant notamment les pages pratiques du guide, comment y arriver, quelles sont les formalités, que finalement on se rendait bien compte de la réalité de l'histoire du conflit du Proche-Orient à travers ces petites choses de la vie quotidienne. Est-ce que c'est un sentiment que vous pouvez partager ?
Oui, Jean, vous avez raison. Quand on arrive à l'aéroport de Tel Aviv, déjà, on sent qu'on est un pays où on fait très attention à la sécurité. On est fouillé, on est interrogé, ce qui est d'ailleurs assez normal. Je suis fier de ce guide du routard Israël-Palestine parce que pour la première fois, on a vraiment voulu s'impliquer dans la paix. Pour la première fois, le Proche-Orient, qui est toujours en état d'ébullition, on voit la Syrie, la complexité électorale en Égypte, le Liban qui commence à bouger, eh bien, s'il y a un endroit qui est à peu près tranquille, c'est Israël-Palestine maintenant. Et j'ai voulu, par ce guide, contribuer à cette petite pierre d'achoppement vers la paix. D'abord en prenant comme exemple, en introduction, et on ne l'a jamais fait avant, deux pays qui n'ont rien à voir avec Israël-Palestine, c'est Irlande du Nord, Irlande. En faisant un parallèle entre ces deux conflits, en rappelant que Irlande du Nord, Irlande, Israël-Palestine, c'est un conflit qui réunit une guerre ethnique, une guerre de territoire, une guerre religieuse et une guerre de minorité. C'était exactement les mêmes ingrédients qu'en Irlande du Nord. Ce qu'on oublie, c'est que la paix a été signée en Irlande du Nord, depuis une petite vingtaine d'années, qu'elle se maintient, qu'elle perdure, et que on a oublié la raison de cette paix. Et c'était le début d'une grande réflexion avec beaucoup de collaborateurs. C'est peut-être le guide du routard qui coûte le plus cher, qui sera jamais rentable, je vous le dis, tellement on a fait appel à des historiens de tous bords, de toutes confessions, et chez les juifs, avec des confessions et des sensibilités très différentes, parce que vous le savez, chaque juif est unique, il n'y a pas que Ashkenaz et Farad, il y a une culture différente à chaque fois. Et on s'est rendu compte que en Irlande du Nord, la première réflexion, c'est que les peuples voulaient la paix. Mais en fait, tous les peuples veulent la paix. Pourquoi alors la guerre perdure ? C'est une volonté politique. Il y a des gens qui ont des intérêts, ce sont souvent des politiciens. En Irlande du Nord, je vous le dis, ça a été une volonté farouche de deux hommes exceptionnels qu'on n'a pas toujours apprécié à leur époque, c'était Clinton et Tony Blair. Ils s'entendaient bien, ils finançaient complètement l'Irlande, et le poids des États-Unis en Irlande, vu l'immigration irlandaise aux États-Unis, était ultra puissante, tout comme les États-Unis sont ultra puissants auprès d'Israël. Et ils ont exigé, ces deux hommes d'État, étrangers en fait au conflit, ont exigé des négociations secrètes entre les parties adverses. Ces négociations ont duré plus d'un an. Donc, étant secret, il n'y avait aucune incidence au niveau des médias, au niveau des lobbies, au niveau des pressions de part et d'autre. Et ce n'est que lorsque ils ont réussi à peu près à faire un pas vers l'autre, que la paix pouvant être signée, qu'ils ont fait des déclarations à la presse. Et cet exemple est fort d'enseignement pour Israël-Palestine maintenant. C'est le début de ce guide du routard, où on se dit, tout compte fait, ce sont des pays exceptionnels, ce sont des pays merveilleux. Jérusalem est une des plus belles villes au monde. Tel Aviv est une des villes les plus branchées du monde, une des plus belles qui soient, qui sont exceptionnelles. Si vous voulez vivre selon le monde arabe, aller à Naplouse, où il n'y a pratiquement jamais eu de touristes, il y a un souk qui date du Moyen-Âge, qui n'a pas bougé depuis des siècles, où vous comprendrez ce qu'est l'hospitalité arabe en allant en Palestine, et qu'on soit croyant ou pas, qu'on marche sur les pas du Christ. Il y a d'ailleurs un itinéraire dont on parle, qui s'appelle Jesus Trail, et qui est une agence de voyage qui vous propose des itinéraires à pied avec audio guide, en fonction de votre capacité. Vous pouvez faire 60 km ou 10 km, 3 km, en reliant des lieux saints, des lieux qui ont été fréquentés par le Christ et ses apôtres. Et c'est quand même une grande leçon de choses, une grande leçon d'histoire.
Alors je reviens à ce que vous disiez en préambule, en comparant Israël-Palestine et la guerre d'Irlande, qui effectivement est entrée maintenant dans l'histoire passée. Et je me demandais si le fait d'écrire un guide qui invite le voyageur à se rendre sur place ne permet pas aussi de contribuer à cette démarche-là silencieuse, tranquille au quotidien vers la paix, notamment par les chapitres que vous consacrez à l'histoire et à la culture dans vos guides du routard, et en particulier dans celui sur Israël et la Palestine.
Oui, je crois que un guide, c'est un outil, c'est une façon simple d'inciter les gens à la découverte. Et plus il y aura de touristes dans ces pays, plus il y aura une augmentation des niveaux de vie, puisque ça apporte le tourisme apporte de la richesse. Et pour que les touristes restent, eh ben, il faut pas de bombes, il faut la paix, il faut la facilité entre les frontières. Et pour le lancement à Paris, c'est pour ça que j'avais invité aussi bien la délégation israélienne que palestinienne, dans un restaurant qui a servi une cuisine commune, à la fois cachère et halal, eh bien, c'était la cuisine du Christ. Puisque, à l'époque, la cuisine du Christ était une cuisine qui allait aux deux religions. Et les gens ont mangé en paix, tranquillement. Ils en ont profité, d'ailleurs, pour passer quelques petits accords pour franchir le mur d'une façon un petit peu plus simple, pour faciliter les modalités pour les touristes. Et ça aussi, ça peut contribuer à la paix, et c'est pour ça que ce guide a été fait. C'est pas pour la rentabilité, je peux vous dire tout de suite, vu le nombre de collaborateurs qu'on a mis dessus, ce sera jamais rentable. Mais je me dis, c'est peut-être justement le début d'une petite réflexion pour le grand public, de se dire, mais ces pays avec la paix, ce serait quand même l'arrivée au paradis.
Ce sur quoi je voulais un peu insister, c'était sur la qualité de l'information que vous donnez et la lisibilité de l'information que vous donnez sur le contexte historique des deux pays, la Palestine et Israël. Est-ce que ces collaborateurs dont vous parlez ont été particulièrement pointilleux et attachés à la destination finale du texte qu'ils écrivaient sur l'histoire, c'est-à-dire des voyageurs?
Ah bah bien entendu. D'abord parce que l'erreur est impossible sur des pays de la sorte, parce qu'il y a tellement de pression, je peux vous le dire, tellement de lobbies qui interviennent dans tous les sens, chez les éditeurs, à la rédaction et tout. Donc on ne peut pas se permettre la moindre erreur. Chaque mot est pesé, sous-pesé, et parfois on termine en changeant le mot. Donc il était très important que personne ne soit choqué, que chacun s'y retrouve, qu'on explique d'ailleurs des histoires complètement oubliées des deux parties et des gens très cultivés, personne ne sait de quelle origine est Yasser Arafat, qui c'était, cette famille, qui était une grande famille de Jérusalem-Est. Donc c'est toujours très important que l'on tienne les tenants et les aboutissants. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que des deux communautés les plus importantes, juives et musulmanes, chacun m'ont dit qu'ils avaient appris des choses sur grâce à ce guide du routard. Un seul exemple, nous parlons évidemment des camps de concentration, puisque ça fait partie, les camps de concentration sont à l'origine de l'État d'Israël de 1948. Et au musée militaire de Dresde, en Allemagne, il y a une machine gigantesque, était une trieuse. Vous savez, comme à la sécurité sociale autrefois, chacun avait un petit carton avec des trous. Et en fait, les nazis utilisaient cette trieuse, qui était une machine unique, et tous les pays conquis, chaque habitant se retrouvait affublé d'une trieuse, d'une carte. Vous aviez 22 cases. Donc, première case, le sexe, et la provenance, l'origine, le métier et tout. 22e case, juif, pas juif. Et je vous raconte cette histoire parce que personne ne la connaît. Elle vient d'être retrouvée par les Allemands. Ils sont très fiers de l'arborer. Sur cette machine, il y a le nom du fabricant qui tient en trois lettres. I. BM. C'était une machine vendue par les Américains pour organiser les camps de concentration. L'organisation de ces camps était une affaire extrêmement complexe, puisque il y avait des juifs de toutes les origines. Il fallait les transporter en train. Les trains ne fonctionnaient pas tout le temps. Il y avait des camps de concentration. Il y avait des camps d'extermination. C'est pas la même chose. Cette machine qui triait 26 000 fiches par jour, qui a pu organiser la fluidité de ces camps. C'est quand même intéressant de le marquer. Il n'y a pas beaucoup de juifs qui connaissent cette machine. C'est peut-être bon de le rappeler. IBM n'a jamais été condamné.
Dans les indications plus touristiques, vous évoquez bien sûr des lieux où manger, où dormir, mais aussi d'autres musées, notamment des musées qui permettent de retrouver des épisodes de l'histoire liés à la création de l'État d'Israël et donc par ricochet, par miroir, la création de l'État des territoires palestiniens, notamment l'histoire de l'Exodus, qui est quand même une histoire qui est une histoire tellement emblématique, tellement absurde à la limite.
Oui, puis un petit peu occulté, un peu oublié, qui était un peu une horreur, une incompréhension, une bêtise politique. Je vous le rappelle en deux mots, c'est un bateau qui a été affrété par les colons juifs qui sortaient des camps de concentration. Ils sont partis de Chypre. Et pour aller sur Haïfa et peupler la terre d'Israël. Et à l'époque, 45, c'était sous protectorat, Israël était sous protectorat anglais, et les Anglais n'ont jamais voulu que ce bateau accoste sur les terres, les ports israéliens. Ça a été une horreur, ils ont été brinque-ballés absolument partout et tout, alors qu'on se dit, les Anglais, qui étaient du bon côté de la guerre, qui ont permis l'extermination du nazisme, eh bien, en quelques mois, ils ont fait volte-face, alors qu'on pouvait avoir une mansuétude, une volonté d'entraide vis-à-vis...
Vous rappelez que c'était des survivants des camps qui se trouvaient dans ce bateau.
Bien entendu. Et non, pas du tout. Les Anglais ont été... sans trop qu'on comprenne pourquoi, d'ailleurs, après tout... En les envoyant en Israël, c'était une façon de les installer définitivement et de régler une partie du entre guillemets problème juif. Et non, les Anglais n'en ont pas voulu sur la terre d'Israël. Ça a été un des gros scandales de l'immédiate après-guerre, et c'est vrai que c'était important de le rappeler.
Philippe Klagen, pour terminer cet entretien, je vous propose qu'on dise quelques mots sur les deux autres guides qui font votre actualité. Alors sur le Sri Lanka, on est aussi dans un pays à la situation géopolitique difficile. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à nouveau le guide d'Urhotar est une sorte d'atlas géopolitique et qui permet de resituer dans le contexte historique, mais aussi dans l'actualité, les pays dans lesquels on se rend?
Alors, Sri Lanka, c'est un dénouement heureux. Ils ont vécu, vous avez raison, une guerre civile sanglante, terrible, guerre de religion aussi, entre hindouistes et bouddhistes. La paix a été effective depuis 4 ou 5 ans, et c'est un pays qui est apaisé, qui est en train de redémarrer économiquement. Et c'est vrai que c'est l'occasion inespérée de redécouvrir un pays passionnant, un pays avec des plages somptueuses, avec une culture étonnante, où vous avez à la fois du bouddhisme. N'oubliez pas que Kandy est le deuxième site bouddhiste au monde, puisqu'il détient une dent de Bouddha, qui est extrêmement vénéré chez les croyants. Vous avez des sites anciens, dont Sigiriya, Polonnaruwa, et toute une côte qui a été interdite de tourisme pendant 30 ans. Donc toute la côte est, qui va de Trincomalee à Batticaloa et à Rugambe, donc il y a ces Robinson Crusoe, ces sauvages, il y a des petits bungalows absolument fabuleux, avec des prix qui datent d'avant la guerre, et c'est l'occasion rêvée de redécouvrir le paradis terrestre.
Alors, le dernier en date dont j'aimerais qu'on parle, c'est nos meilleurs campings en France. Est-ce que là, à lire le guide d'Urhotar, on peut avoir une approche de la sociologie du tourisme d'une certaine manière? Parce que le tourisme en camping, c'est quelque chose qui évoque depuis la création des congés payés en 36 en France, une manière de redécouvrir des paysages que l'on découvre d'une manière très particulière par le camping. Et comment définit-on un bon camping, le meilleur camping?
Alors, le camping, le guide d'Urhotar des campings en France, c'est un enfant de la crise. Il est récent, ce guide, parce que c'est quand même le moyen le plus formidable pour découvrir et vivre en pleine nature, dans un endroit merveilleux, pas cher. En France, il y a 7000 campings, nous en avons sélectionné 1800. Donc évidemment, les 1800 plus beaux, donc situation exceptionnelle, pas de pollution autour, des activités sportives, alors que ce soit au bord de la mer. Pour les enfants, c'est un délice, parce qu'il y a une convivialité dans les campings qu'on trouve pas ailleurs. Les gens vivant dehors, il y a une proximité de temps à temps, il y a des contacts, on se fait très très vite des amis dans les campings. C'est plus difficile sur d'autres dans d'autres hébergements. Et c'est vrai que avec la crise, beaucoup, beaucoup de lecteurs nous demandaient notre best-of, puisqu'il y a bien d'autres guides de camping, mais celui-ci, c'est notre sélection, notre meilleure sélection.
Philippe Kohagen, je vous remercie pour cette interview et puis pour ces guides du routard que l'on découvre à la fois comme des accompagnateurs de voyage, mais aussi comme des instruments d'information et à la fois historique, politique et géopolitique.
Merci de m'avoir invité.
Les rencontres d'Edmond Morel.